9h37, Nathalie rend public son témoignage dans un livre qui s'appelle « Debout devant l'injustice, l'arrestation, c'est-à-dire les méandres du système judiciaire, puis il y a tout ce qui entoure également le système judiciaire, pour ne pas dire l'UPAC, avec des révélations quand même nouvelles et importantes. Nathalie, bonjour encore
bonjour,
une fois.
Bonjour.
Tu commences dans le livre en nous racontant l'arrestation. Une arrestation où les enquêteurs ne t'avaient pas rencontré au préalable, personne ne t'avait posé de questions, ça cogne chez vous à la porte, puis c'est la police qui vient pas juste jaser, là, on s'en vient t'arrêter.
À 6 heures du matin.
À 6 heures du matin. Oui. Tu réagis comment? Tu penses à quoi quand la police est là?
Bien, premièrement, je suis absolument pas préparée à ce qui m'attend. Et tu sais, j'entends cogner, je dors, je regarde par l'œil magique. Je viens en appartement à ce moment-là, je suis seule. Et je vois deux hommes. Moi, je pense que, tu sais, dans ma tête, là, je me dis, j'ai aucune idée, là, qui sont ces deux hommes. Je pense que c'est un voisin qui a des problèmes. Enfin, tu comprends-tu? J'ouvre la porte. Et là, les deux hommes se présentent. On est deux enquêteurs du PAC qui se présentent. Est-ce qu'on peut entrer? Oui. Et là, c'est l'OG qui m'annonce, on est ici pour vous arrêter. À ce moment-là, écoute, je suis complètement sous le choc. Tellement que je suis obligée de m'asseoir. Et mon réflexe était de leur dire, bien, je comprends pas, je n'ai jamais volé d'argent, ni reçu d'argent. Puis ils m'ont répondu, on le sait. Mais les gars ont une job à faire, clairement. Et tu comprends, ça se bouscule dans ma tête. Là, ils me lisent les chefs d'accusation. Ils me demandent si je comprends bien. Je dis oui, mais tu sais, de façon machinale. Ils saisissent mon téléphone. Ils me demandent le code. Je n'ai aucune idée pourquoi ils saisissent mon téléphone. Après ça, quelques minutes après, ils me permettent d'appeler un avocat. Là, c'est là que j'appelle Maxime Roy. Mais ça va tellement vite, là. Après ça, ils me disent, tu t'en viens, on vous conduit au poste de police à la Sûreté du Québec.
À quel moment tu réalises que tu n'es pas la seule arrêtée, là, qu'il y en a d'autres?
C'est quand j'arrive au poste de police. Parce que là, on a quitté l'appartement. Il était à peu près, quoi, 7 heures, moins 20, moins 10. Et puis, mais tu sais, je perds complètement la notion du temps, là. Et là, je suis dans l'auto, je fais un appel à mon ancien patron. À l'époque, j'étais au 93, station Sœur et du 98.5. Enfin, bref, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et tout ce moment-là dure, tu vois, de 6 heures le matin jusqu'à peu près. Là, on vient de me reconduire chez moi. Là, il y a à peu près 11 heures moins 20. Là. Mais c'était un épisode extrêmement traumatisant. Parce que moi, quand je suis passée à la commission Charbonneau en 2014, j'étais convaincue que tout était réglé là, après la commission. J'avais l'impression d'avoir fait un travail correct là, tu sais, après la commission, après 6 heures de témoignage. Et là, pour constater que 2 ans plus tard, on m'accuse et on m'arrête pour des sujets qui ont fait l'objet de mon témoignage à la commission Charbonneau. Puis c'est important, Paul, pour moi, d'écrire cette histoire-là, pour plusieurs raisons. Un, parce que j'ai jamais pu exposer ma version des faits. Et l'UPAC, il semblerait... L'UPAC, comme réponse, parce que moi, lorsque j'étais en interrogatoire, j'ai dit aux gars qui m'interrogeaient, bien, j'ai tenté de rejoindre Robert Lafrenière pour exposer ma version des faits avant d'être arrêté. Pourquoi? Parce que dans les médias, il y a plusieurs articles qui étaient publiés à répétition. Puis là, je me disais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et pour sa défense, l'UPAC a déclaré qu'ils étaient prêts à me rencontrer, mais sans la présence de mon avocat. Un, j'ai pas de souvenir de ça. Puis deux, voyons, j'aurais rencontré l'UPAC sans la présence de mon avocat, toi.
Mais ce que tu dis, là, c'est que Robert Lafrenière, qui était en renouvellement de mandat,
oui,
t'a arrêté pour mettre de la pression sur le gouvernement parce que, d'abord, un, il n'était pas le candidat voulu par le gouvernement. Il n'aurait pas été renouvelé.
Le candidat favori du gouvernement, c'était Denis Galland. Les médias ont fait état de d'autres candidatures, mais celui qui a passé à travers toutes les étapes, tout le processus avec les emplois supérieurs au gouvernement, c'est Denis Galland. C'était aussi le candidat favori de Martin Couetteux, le ministre de la Sécurité publique de l'époque. Alors, Robert Lafrenière s'est organisé pour atteindre son objectif, c'est-à-dire celui d'être renouvelé à son poste de commissaire. Et quand je te dis ça, c'est tellement gros. Tu sais, l'histoire a l'air... Ça a l'air... C'est surréaliste.
C'est parce qu'on le voit dans le livre, puis il y a eu d'autres exemples. Là, il n'était pas prêt à t'arrêter le jour où tu as été arrêté,
non.
Donc le jour du budget.
Effectivement. En fait, les arrestations étaient devancées. C'est ce qu'on
exact.
A appris un an après mon arrestation.
Et il a démissionné de son poste le jour de l'élection. Et tu dis qu'il y a des députés qui étaient inquiets, qui se demandaient s'ils étaient sous écoute électronique de la part de l'UPAC.
Oui, absolument. En fait, c'est Marcel Forget, celui qu'on a décrit comme l'ancien numéro 2 de l'UPAC, qui était responsable du volet vérification des entreprises, qui a intenté une poursuite pour congédiement illégal auprès du gouvernement. Ça s'est retrouvé en cour et il a affirmé en cour que les députés avaient peur de Robert Lafrenière. Et là, il raconte devant le juge au tribunal des conversations qu'il entend à micro fermé, en commission parlementaire entre des députés et Robert Lafrenière. Et des députés qui disent au commissaire, est-ce qu'on est sous écoute? Et ils ont peur, littéralement, parce que, bon, il y a eu mon arrestation, il y a l'histoire de Guy Ouellet. Et entre nous, il y a Sam Ahmad aussi qui a fait l'objet moi, je suis convaincue que Sam Ahmad a démissionné parce que l'UPAC a décidé de se faire une job de bras, là, littéralement. Alors, il commence à avoir beaucoup de hasard dans cette histoire-là, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le hasard. Moi, je soutiens que Robert Lafrenière avait un plan. C'est un plan, évidemment, qui s'est bien gardé de dévoiler publiquement pour effectivement être renouvelé. Ça a fait son affaire, évidemment, que je sois arrêté. Puis ce qui me choque le plus, c'est qu'ils n'avaient pas de preuves pour m'arrêter. Et l'UPAC et le DPCP le savaient. Et ça, parce que moi, ça m'a pris des années avant de comprendre le pourquoi derrière mon arrestation. Parce que
dans le livre, ce qu'on comprend, c'est qu'on t'arrête parce que comme ministre, tu donnes des octrois, comme on dit, aux
subventions
municipalités. Et t'as un pouvoir discrétionnaire de modifier la recommandation des fonctionnaires.
Oui. En fait, sur 666 dossiers que j'ai signés pendant que j'étais aux affaires municipales, moi, j'ai fait l'objet d'accusations de nature criminelle pour 8 dossiers. Lié à 2 enquêtes, Joug et Lierre. Lierre, c'est Boisbriand, le fameux dossier qui a fait tant parler, et d'autres, Joug, c'est des subventions en Gaspésie, une dans Charlevoix, aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, eux, l'UPAC, là, premièrement, ils se sont inventé une histoire qu'ils ont fini par croire. Ça, je suis convaincue de ça. Et ce qui me frappe, ce qui m'a frappé aussi dans ce que j'ai découvert, c'est leur méconnaissance du fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Eux, là, un fonctionnaire qui émet une recommandation, pour eux, là, le ministre n'a d'autre choix que de se conformer à la recommandation du fonctionnaire. Mais je regrette, mais ça ne fonctionne pas comme ça, la politique. Et les subventions que j'ai, les subventions que j'ai accordées, subventions que j'ai bonifiées, je l'ai fait, un, parce que le maire ou le député, et où le député me demandait de le faire. Je l'ai fait parce qu'il s'agissait de petites municipalités qui ne pouvaient pas réaliser leur investissement en eau potable, en aqueduc, avec un taux d'aide, par exemple, je ne sais pas moi, de 50 ou 60 %. Et troisièmement, j'ai financé aucun projet d'eau potable fictif, moi, là, quand j'étais aux affaires municipales. Je n'ai pas inventé ça, là. J'ai pas donné des subventions pour que ça se retrouve dans la poche des ingénieurs ou des maires de municipalités. Là, au contraire, tous les projets que j'ai signés, j'ai autorisé, étaient justifiés.
Je vais te poser des questions, je pense que les auditeurs se posent. La première, tu étais une star au Parti libéral pour le financement. Tu attirais du monde puis tu permettais de lever des fonds. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque quand on est ministre, par exemple, des affaires municipales, puis de faire des opérations de financement, puis les firmes d'ingénieurs, puis tous les entrepreneurs, qu'à un moment donné, ces gens-là cherchent à te parler, à t'influencer?
Mais clairement, Paul, je veux dire, c'est sûr que ces gens-là cherchent à te parler puis à t'influencer. Puis eux, auprès de leurs clients, les responsables...
J'ai parlé à la ministre, moi.
Exactement, tu sais, et chez des entrées au cabinet de la ministre, ça leur donnait du pouvoir auprès de leurs clients. Le financement sectoriel qu'on faisait chez nous, que d'autres partis politiques faisaient, là, il faut arrêter de se mettre la tête dans ça, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie entourant le financement politique de l'époque, on s'entend, parce que les mœurs sont énormément changées, les lois ont été modifiées, et heureusement, les grands bureaux d'avocats étaient sollicités, les grands bureaux d'ingénieurs aussi. Moi, lorsque je participais à une activité de financement, tu t'attends à ce que les gens qui soient dans la salle respectent la loi électorale. Malheureusement, à partir de 2006, on a mis à jour, grâce au rapport Moisan, entre autres, on a découvert qu'il y a des gens qui faisaient appel au système de prête-nom. Hein? Donc, tu sais, toi, tu es un employé d'une compagnie.
Oui. Tu te fais rembourser.
Tu fais rembourser. Ça, c'est illégal. Alors, tu sais, on a découvert ça au fil des années. Mais ce qui m'enrage, c'est qu'on m'a fait porter l'odieux d'un système de financement d'une autre époque.
Robert Lafrenière est venu ici un matin.
Oui.
Ma question, c'était, au-delà du financement du parti, mm-hmm. Est-ce que Nathalie Normandeau a mis de l'argent dans ses poches?
Ben oui, je sais, je t'ai entendu.
Okay,
d'ailleurs, j'en parle de cette entrevue dans le livre.
Et lui a répondu que oui, que t'avais fait un gain personnel.
C'est fou, c'est complètement, c'est non seulement c'est fou, c'est complètement faux. Les enquêteurs sont allés voir dans tous mes comptes bancaires. Ils ont vérifié vraiment tout ce que j'avais, les contributions que j'ai données au Parti libéral du Québec. Il y a un journaliste qui m'a même dit, mais ça, j'ai pas pu le vérifier, qu'on serait même allé jusqu'à vérifier dans les comptes bancaires de ma mère. Moi, j'ai pas de compte à l'étranger, ni au Liechtenstein, ni à New Jersey, là, j'ai pas ça dans la vie. Et tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai travaillé pour, j'ai gravi une marche à la fois. Mais alors ça, c'est complètement faux. Je n'ai jamais touché un sou des activités de financement auxquelles j'ai pris part. Jamais. On ne m'a jamais payé de voyage. On ne m'a jamais offert de valise pleine d'argent. Je me suis remis d'argent dans les poches. Des fleurs. Les fleurs de Lino. Écoute, je consacre un chapitre à Lino parce que c'est assez hallucinant que des enquêteurs est considéré l'envoi de 40 roses pour mon 40e anniversaire comme un élément incriminant dans la trame factuelle qu'ils ont élaborée qui ont conduit à mon arrestation. Les roses étaient très belles en passant, mais oui. Je raconte dans le livre comment l'histoire se termine avec les roses. Je te le dis pas, peut-être, pour faire...
Non, je l'ai lu, là, qu'il y avait rien de sérieux entre vous deux.
Non, absolument pas.
Ton chef de cabinet, Bruno oui. Lortie, oui. Fils spirituel de Marc-Yvan Côté.
Oui, c'était des amis dans la vie.
Oui. C'est pas dangereux d'avoir Marc-Yvan Côté, libéral toxique au fédéral, qui tourne autour avec son fils spirituel, avec qui il parle régulièrement de dossiers, puis Marc-Yvan est dans... Est-ce que c'était pas à risque? Est-ce que c'était pas dangereux? Est-ce que t'as pas fait preuve de naïveté?
Ben, plusieurs choses. La première, c'est que je connaissais la relation entre Marc-Yvan Côté et Bruno, puis je vivais bien avec ça. Bruno Lortie, qui était mon chef de cabinet pendant 8 ans, a déclaré sous serment à la commission Charbonneau que ni Marc-Yvan Côté ni d'autres représentants de firmes de génie n'ont fait... En fait, il n'y a pas partagé d'informations de nature privilégiée avec eux. Troisièmement, lorsque Marc-Yvan Côté participait aux activités de financement, il le faisait à titre personnel, mais si...
Non, mais c'est un gars de sacré d'or des libéraux fédéraux.
Mais s'il sollicitait des gens pour participer, par exemple, à une activité de financement qui concernait mon association de comté, ça prenait au préalable l'autorisation du parti. Moi, à partir du moment où le Parti libéral du Québec lui donne son certificat de solliciteur, puis il dit « OK, parfait, tu peux solliciter. » Tu comprends? Moi, ma job, là, c'est d'aller de participer aux activités de financement, de rencontrer les gens, de jaser avec eux. Tout ce volet-là, là, d'organisation, de mécanique, là, comprends-tu, ça ne me regarde pas. Puis j'ai pas envie de prendre ça sur mes épaules parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions, qui doivent les assumer. Parce que je peux te dire que, sans jouer à la victime, j'en ai pris beaucoup sur mes épaules. Puis ce qui me choque, c'est que je suis la seule. Moi, là, année après année, je suis obligée de me justifier.
As-tu été larguée par le Parti libéral?
Bien, absolument. Puis année après année, je suis obligée, moi, de m'expliquer sur ce qui m'est arrivé. Mais qui explique publiquement, autant à l'UPAC qu'au DPCP, pourquoi on l'a arrêté? Quels sont les vrais motifs qui ont conduit à son arrestation? Puis larguée par le Parti libéral, absolument. Écoute, je me suis sentie trahie, blessée. C'est sûr que là, j'ai pris une distance par rapport aux événements, mais j'ai déchiré ma carte puis j'ai pas repris ma carte depuis. Là.
Dernière question, parce que c'est un élément important. Dans l'esprit des gens, c'est pas un acquittement, c'est un arrêt Jordan qui arrête les procédures. Toi, tu voulais avoir un acquittement, tu as même demandé un procès séparé.
Oui, tout à fait, absolument, parce que moi, je voulais qu'on aille au fond des choses. Mais sais-tu quoi, Paul, après 4 ans devant la justice, et en passant, mon nom a été inscrit au rôle à 56 reprises. Ça, c'est comme si, pendant 4 ans et demi, je m'étais présentée au tribunal à tous les mois. À un moment donné, tu dis, attends, mais ça va finir quand, là, cette folie? Parce que c'est une folie. Et je n'ai eu d'autre choix que d'arriver à cet ultime recours qui est prévu, hein, qui est prévu par la loi. Mais c'est pas ce que je voulais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un doute qui va planer dans la tête de bien des gens. Je vais te faire une confidence, là, ce matin, là. Je suis au micro comme toi, puis des courriels, là, violents, puis de bêtises, j'en reçois. Pute libérale. Libéral corrompu. C'est en prison que tu aurais dû être. Ça, là, c'est courant. Alors, je sais que jamais je ferai l'unanimité, on s'entend là-dessus. Mais ce qui me fâche, c'est que j'ai été arrêtée et accusée, puis en passant la journée de mon arrestation, le DPCP était complètement silencieux. Le seul qui a occupé la patinoire, c'est Robert Lafrenière et c'est l'UPAC. Je suis arrêtée pour permettre à un homme d'être renouvelé, donc de continuer d'asseoir son autorité au sein de l'UPAC. Mais moi, je vais être prise toute ma vie à vivre avec ces accusations. Tu comprends? C'est dans 10 ans, dans 15 ans, là, tu vas faire une recherche sur Internet. Ça va, tu comprends? Ça va revenir. Alors,
Vas-tu poursuivre? Vas-tu demander des dédommagements? Vas-tu attaquer Robert Lafrenière?
Je fais la paix avec ça. Je tente de faire la paix avec ça. Le livre m'a fait beaucoup de bien. Pour ce qui est de la poursuite, j'estime que je mérite compensation et réparation parce que j'ai vécu des préjudices importants. J'en parle dans le livre, des préjudices en termes de réputation, sûrement, mais également dans ma vie personnelle aussi. Maintenant, la grande question que je vais me poser, est-ce que j'ai le goût de replonger dans cette histoire-là? Tu sais, c'est... Honnêtement, je suis encore partagée par rapport à ça. Mais clairement, pour moi, c'est important d'exposer la façon dont j'ai vécu les choses, ma vision de ce que c'est ma version des faits. Puis le lecteur jugera. Mais moi, l'important, c'est de... Puis l'histoire est assez inusitée. C'est la première fois dans l'histoire qu'une ex-ministre, ex-vice-première ministre, s'est arrêtée pour des décisions qu'elle aurait prises dans le cadre de ses fonctions. Tout ça a conduit à des accusations de nature criminelle.
Mais en plus, on a vu comment Guy Ouellet, ça se termine. Il y a des... Puis là, il y a une enquête sur les fuites de l'UPAC. Je ne sais pas c'est qui officiellement, est-ce qu'on va le savoir un jour. Mais quand tu as vu, par exemple, je vais juste finir avec ça, ton interrogatoire sur images qui était rendu dans les médias.
Je ne comprenais pas pourquoi on diffusait ces images-là. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ces images-là. Moi, je n'ai jamais visionné mon interrogatoire. Je n'ai pas fait ça. Parce que ça fait ressortir des souvenirs beaucoup trop douloureux.
Merci, Nathalie. Ça a l'air que tu restes après?
Ça a l'air que je reste après. Okay. C'est dans quelques minutes.
Bien. Ben, c'est un petit rappel. Allez voter. Jusqu'à 9h30, les bureaux de scrutin sont ouverts. Puis demain matin, quand on va se retrouver, pas certain qu'on va avoir des résultats très clairs. Ça va être un long dépouillement. Profitez-en, il va faire beau. Température parfaite. Salut, à demain, 5h30.